planification méticuleuse, et c'est là qu'apparaît le préparateur de travaux. Aujourd'hui, quand vous lancez dans un calculateur ou dans votre micro-ordinateur, vous lancez un traitement, tout se débrouille et vous avez le résultat de sortie, parce que vous avez programmé l'enchaînement des opérations. Quand vous avez fini un tri, vous faites autre chose, mais tout ça, c'est prévu par l'application. À cette époque-là, l'organigramme était public. C'est-à-dire qu'on disait, on va saisir des cartes, on va les trier. Le chariot 3 avec les cartes va aller à la tabulatrice 6, etc. Et c'est là que, s'il y avait un incident sérieux... Alors, j'ai pris l'exemple de l'opérateur Acrobat. Il y a un autre exemple, c'était la panne de la machine, parce qu'une machine tombait en panne, et là, c'était pas 5 minutes ni un quart d'heure, ça pouvait être une demi-journée. Eh bien, là, on était obligé, le préparateur reprenait son organigramme prévisionnel pour essayer de perdre le moins de temps et de remettre ça sur une machine qui était moins chargée. Enfin, et au fond, son métier, c'est un néologiste, il était organigrammeur. C'était ça le préparateur. Et c'était un homme essentiel, c'est lui qui sentait en fait tous les flux et qui évitait en général d'acheter une ou deux machines de plus, d'acheter ou louer, parce que la plupart des machines étaient louées, bon, enfin de signer un contrat supplémentaire, disons. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bon, ça, tout ça, on en a déjà parlé. J'allais dire quelque chose que j'ai oublié, mais je retrouverai tout à l'heure, certainement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet organigramme? Alors, évidemment, c'est un peu puéril de regarder ça aujourd'hui, mais c'était la base. On avait, en fait, globalement, des fichiers permanents. C'était, alors, si on prend la paye, par exemple, c'était Monsieur Dupont, qui a le numéro de pointage 1, 2, 3, 4, 8, qui est payé tant de l'heure et qui habite à telle adresse. Bon, c'était ça, la carte permanente. Permanente jusqu'au jour où ce brave monsieur avait une augmentation, tant mieux pour lui, et on refaisait une carte avec le nouveau taux horaire, évidemment. Mais c'était des cartes permanentes tant qu'il n'y avait pas de modification. Et puis il y avait les cartes de la semaine. Ce monsieur travaillait un certain nombre d'heures, lundi, mardi, mercredi, et tout ça s'était pris dans des cartes qui avaient un seul point commun, c'était le numéro de pointage de l'individu. Il y avait dans la carte maîtresse, il y avait son numéro de pointage, et dans les cartes des heures de la semaine, il y avait le même numéro. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on réunissait ça normalement en interclasseuse. Que vous voyez ici. Alors, les cartes bétail étaient perforées en vrac, on les triait pour faire un fichier, et on les mariait avec l'interclasseuse. Alors, il y avait besoin de combien de cases sur l'interclasseuse? Deux cases, normalement. Une pour les cartes maîtresses, une pour les cartes bétail, mais il y en avait quatre. Donc c'est pas une question piège, et ben c'est que il pouvait y avoir des heures sans carte maîtresse parce qu'elle était perdue ou en train d'être faite ou bon. Donc dans une case on mettait les cartes de travailler, je dirais, mais qui ne trouvaient pas leur auteur, et l'inverse, le monsieur qui avait une carte maîtresse mais qui était malade cette semaine-là, qui n'avait pas travaillé, donc il avait sa carte maîtresse mais il n'y avait aucune heure. Donc on avait bien quatre cases pour tous ces cas-là. Ensuite, donc, après l'interclassement, alors en tabulatrice, on faisait le calcul de la paye dans l'exemple que j'ai pris, avec impression des bulletins de paye et perforation de cartes, de quatre récapitulatrices, de résultats qui vont servir pour des opérations de déclaration fiscale, quelquefois en fin de trimestre, certaines en fin d'année. Enfin, c'était l'archivage. Voilà, séparation. Alors, on reséparait l'interclasseuse. C'est intéressant d'ailleurs, quand on écoute une interclasseuse, c'est une machine qui n'arrête pas de s'arrêter. Parce qu'il y a de repartir. Puisqu'on compare une piste, il y a une carte, on s'arrête, on retrouve la carte équivalente, on relance, on s'arrête, on relance, on s'arrête. Et ça fait un bruit assez impressionnant d'embrayage successif. Par contre, quand on est dans la dernière opération en bas au milieu, là, quand on resépare les cartes, il n'y a plus cet embrayage, puisque le fichier unique se rééclate en deux fichiers séparés. Les applications sont programmées sur des tableaux de connexion. Alors amovibles, parce que naturellement, il n'y avait pas une seule application sur une tabulatrice. Donc, au départ, la première machine statistique n'avait pas de tableau amovible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un calcul, mais comme c'était souvent le même, c'était peut-être moins grave. Mais on repiquait les fiches à chaque fois, avec les erreurs qu'on introduisait. Et pourquoi 48 volts? Parce que c'est la loi. C'était les PTT. Le téléphone était à 48 volts parce que l'opérateur là, quand il faut, enfin c'est pas l'opérateur mais le technicien qui fait sa mise au point peut avoir à toucher du 48 volts et le 48 volts ne, comme on dit en bon français, ne provoque pas de châtaigne. Oh non, on le sent pas. Oh non, pour le sentir, faut se mouiller le doigt. Le piquage d'un tableau nécessite de 1 à 3 jours une fois l'analyse terminée. Alors ça, ces trois mots-là, une fois l'analyse terminée, c'est assez majeur. Le Bull, dans son école, expliquait à ses élèves, si vous voulez faire quelque chose correctement, il vaut mieux déjà savoir ce que vous cherchez à faire. Et ça, c'est une évidence qui n'était pas du tout une évidence pour bon nombre de petits acrobates qui disent oh, c'est un tableau facile, c'est une récap de ça, et hop, ils prenaient une poignée de fiches, ils commençaient à piquer le tableau. En général, ceux-là, ils y étaient encore une semaine après, et puis ils ne voyaient plus clair, parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus clair. Bon, alors, donc, le très très important, c'est l'analyse. L'analyse est absolument essentielle. Et qu'est-ce que c'est que l'analyse? C'est d'abord discuter avec le monsieur qui connaît l'application. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Que la machine fasse pour vous? C'est avec des grandes boîtes, on parlait tout à l'heure de schéma de principe, faire un schéma de principe, et puis dire, on va lire les cartes là, faire ça, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ce schéma de principe, on a un début de dossier. C'est-à-dire que quelqu'un qui va passer derrière vous 6 mois après pour une correction, ben, il comprend ce que vous avez voulu faire, puisque vous l'avez écrit. Mais le petit acrobate qui a piqué des fiches directement dans le tableau, alors là, c'est une catastrophe, parce que on peut tout simplement ne pas arriver à dépanner un tableau fait dans ces conditions-là. Alors ça, il faut bien retenir ça, c'était... Mais il y avait... Il y avait deux écoles. Le client venait vous dire, un technicien Bull qui était envoyé en renfort chez un client, pendant 2 jours, 3 jours, il faisait l'analyse. Et le chef de l'atelier venait lui dire, mais vous n'avez pas encore piqué le tableau? Il dit, non, ça, de piquer le tableau, c'est une traduction de ce que j'aurais compris en langage machine. Mais c'est rien. Quand j'aurais compris, je prendrais de 1 à 3 jours. Mais mon analyse, c'est majeur. Sinon, ça ne sera pas 1 à 3 jours, ça ne sera jamais. Et il y avait des...